Vous êtes sur Europe 1, il est 22h. Tout de suite, le journal avec Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Karima, bonsoir à tous. Voici les titres de votre journal avec à la une, cette vidéo sur laquelle apparaît pour la première fois depuis 5 ans le chef de l'État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi. Vidéo récente puisqu'il y revendique notamment les attentats au Sri Lanka. Eux avaient l'intention de commettre un attentat contre des policiers en France. On en sait un peu plus sur les 4 suspects interpellés vendredi dernier. Ils cherchaient à se procurer des armes et voulaient passer à l'acte durant le Ramadan. 4 jours après les annonces d'Emmanuel Macron, le gouvernement a planché aujourd'hui sur l'application de ses mesures, notamment le calendrier. Il va falloir jouer serré pour éviter les embouteillages à l'Assemblée. Reconstitution en ce moment même dans la maison du quadruple meurtre de la famille Troidec près de Nantes. On sera sur place en direct avec Mathieu Bock. On sera également à Lyon avec Jean-Luc Boujon, Lyon où la vitesse est réduite depuis ce matin sur le périphérique pour cause de pollution. Et on entendra Thomas Tuchel, le coach du PSG, qui regrette que Neymar ait perdu ses nerfs après la défaite contre Rennes samedi. Côté météo, la journée de demain sera la plus belle de la semaine, sauf des Hauts-de-France à la Bourgogne-Franche-Comté où les nuages domineront. Ce sera pas mal aussi mercredi, mais la suite s'annonce beaucoup, beaucoup moins bien. Prévision complète de Valérie Darmon à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir, à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir le directeur général du Futuroscope, Rodolphe Boin.
Europe 1.
Et ça fait 5 ans qu'on n'avait plus de nouvelles de lui. Le chef de l'État islamique apparaît donc pour la première fois dans une vidéo de propagande diffusée par l'organisation terroriste. Vidéo qui n'est pas datée, mais dans laquelle Abou Bakr al-Baghdadi évoque la bataille pour Barouz en Syrie, qui est maintenant terminée, dit-il. Barouz tombé le 23 mars dernier. Il revendique également les attentats récents au Sri Lanka. Et il évoque par ailleurs les frères Klein qui avaient revendiqué les attentats du 13 novembre 2015. Écoutez l'analyse du spécialiste du terrorisme, Jean-Charles Brizard.
C'est une vidéo qui est très importante, effectivement. Elle intervient presque 5 ans après la dernière apparition publique d'Abou Bakr al-Baghdadi. On le disait blessé, même mort, selon certains. Il y avait beaucoup de rumeurs à son sujet, de spéculations sur sa survie. En réalité, il est bien vivant. On le voit discuter avec plusieurs lieutenants. Il se félicite des attentats commis ces derniers jours au Sri Lanka, en Arabie Saoudite. Il cite notamment un certain nombre de djihadistes importants tombés à Baghouz, et en particulier Fabien Klein, qu'il désigne nommément par son nom de guerre. Il appelle à nouveau au djihad. C'est un message qui s'adresse à ses sympathisants, bien sûr, qui est là pour remobiliser ses troupes, alors qu'un certain nombre effectivement, de commentateurs disent que la menace va disparaître avec la fin territoriale du califat, ce qui est bien sûr une erreur d'appréciation.
Le spécialiste du terrorisme Jean-Charles Brizard, joint pour Europe 1 par Alain Accot. Eux avaient prévu de s'en prendre aux forces de l'ordre. Un attentat déjoué, 4 personnes arrêtées vendredi dernier. Pierre de Cossette, il était semble-t-il urgent de les interpeller.
Oui, les autorités parlent aujourd'hui d'un passage à l'acte à brève échéance. Plus précisément, nous dit-on, ces hommes auraient envisagé de frapper durant le Ramadan qui doit débuter dimanche ou lundi. D'autre part, ces suspects ont fait des repérages à la fois physiques et sur Internet des cibles institutionnelles et policières. Enfin, troisième élément inquiétant, leur volonté manifeste de se procurer des armes. D'ailleurs, selon nos informations en perquisition, les enquêteurs ont saisi une Kalachnikov. Même sans date précise ni cible fermement définie à ce stade pour les services de renseignement et pour le procureur de Paris, il n'y avait pas de temps à perdre. Voilà pourquoi vendredi, la DGSI est allée interpeller ces 4 hommes en région parisienne. Ça fait 72 heures qu'ils sont interrogés. 3 d'entre eux sont âgés de 25 à 40 ans, connus de la justice, mais pas pour terrorisme. Et le quatrième, un mineur au profil très intéressant, puisqu'au-delà de son âge, c'est son passé qui attire l'attention. Car ce garçon a été arrêté il y a 2 ans, alors qu'il voulait rejoindre la Syrie. Il n'avait que 15 ans, condamné pour cela à 3 ans de prison, dont une bonne partie avec sursis mise à l'épreuve. Et dans ce cadre-là, il était placé ces derniers temps dans une structure éducative.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. Pour prévenir les suicides chez les forces de l'ordre, le ministre de l'Intérieur a mis en place aujourd'hui une cellule d'écoute spécifique. Il faut, dit-il, briser la peur, briser la honte et briser le silence. Des policiers qui seront tout particulièrement mobilisés le 1er mai, mercredi donc. Les syndicats veulent se saisir de l'occasion pour se faire entendre. Et ce, malgré les menaces des casseurs et des black blocs qui veulent en faire une journée d'apocalypse. À Paris, les commerces et les restaurants devront être fermés le temps des manifestations. Environ 3000 CRS et gendarmes mobiles seront déployés dans la capitale. À Lyon, les manifestations sont carrément interdites dans l'hypercentre. De la parole aux actes, le gouvernement doit donc mettre en œuvre les promesses d'Emmanuel Macron faites lors de sa conférence de presse la semaine dernière, afin de les traduire concrètement. Il y a beaucoup de choses, il faut donc établir un calendrier. Séminaire gouvernemental aujourd'hui à Matignon, il faut faire vite et bien, a dit le Premier ministre, pour construire le qui fait quoi et quand. Et forcément, ça prendra du temps.
Nous devons travailler. Je comprends l'impatience, je comprends la volonté d'aller vite, mais il faut à la fois aller vite et aller bien. Et donc sur l'ensemble de ces sujets, nous voulons prendre le temps de consulter. Si j'ai indiqué ce soir les éléments du calendrier, c'est pour que chacun sache à quel moment le travail commençait et à quel moment il devait s'achever pour que les solutions puissent entrer en œuvre et devenir visible pour l'ensemble de nos concitoyens.
Le Premier ministre, ce soir au micro Europe 1 d'Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Concernant les éléments du fameux calendrier, on sait que les modalités de baisse de l'impôt sur le revenu seront présentées fin juin. Le rapport sur les retraites est lui attendu en juillet pour un projet de loi à la fin de l'été. Pour ce qui est de la suppression de l'ENA, Édouard Philippe attend des propositions dans 6 mois.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Comment les 4 membres de la famille Troadec ont-ils été tués chez eux à Orvault, près de Nantes, la nuit du 16 février 2017 ? Question au cœur de la reconstitution. En ce moment même, en présence de l'assassin présumé de la famille, le beau-frère Hubert Caouissin, qui a reconnu les faits. Au cœur de cette reconstitution, question capitale, a-t-il prémédité son geste ? A-t-il ou non tué volontairement la famille ? Reconstitution qui vient de débuter. Mathieu Bock, vous êtes sur place en direct pour Europe 1.
Oui, il fallait attendre que la nuit tombe pour se replonger dans les mêmes conditions d'obscurité et de bruit que lors de la nuit du crime. Alors le quartier est bouclé depuis le début de soirée, les magistrats, les avocats, les experts sont arrivés les premiers. Il ne manquait plus que Hubert Caouissin qui a été amené un peu plus tard en camionnette blanche directement depuis la prison de Nantes. Cécile de Oliveira, l'avocate de la famille de Brigitte Troadec, la femme, est arrivée avec de grands espoirs pour cette reconstitution. Elle espère que la thèse de l'accusé, qui est une bagarre à propos de lingots d'or qui aurait mal tourné, et elle espère que cette thèse ne tiendra pas. Elle est convaincue que Hubert Caouissin est venu pour assassiner la famille Troadec.
Oui, la préméditation, c'est un élément très important. On peut penser qu'évidemment, l'ensemble des éléments qui vont être constatés ce soir montrent une extrême préparation de ce crime. Le mis en examen peut continuer à prétendre qu'il a été victime, lui, de la part de Pascal Troadec, qui l'aurait attaqué avec un pied de biche. Cette version, je pense, ne va pas résister aux éléments qui vont être démontrés dans le cadre de la reconstitution.
Alors, un peu plus tôt dans la soirée, les magistrats avaient fait amener sur un camion la voiture de Sébastien, le fils Troadec, qu'Hubert Caouissin avait utilisé pour transporter les corps. Les magistrats veulent en effet vérifier s'il a chargé les 4 corps lui-même, tout seul, ou bien s'il a été aidé par sa femme, la propre sœur de Pascal Troadec.
Merci beaucoup. Mathieu Bock, en direct pour Europe 1, en direct d'Orvault, près de Nantes. Un détenu ivoirien de 25 ans a été retrouvé pendu aujourd'hui dans sa cellule. Il venait de purger 4 ans de détention à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Il devait être libéré, mais il savait que la police aux frontières devait venir le chercher pour l'expulser. C'est une menace pour l'homme qui pèse au moins autant que le changement climatique, la destruction de la nature. C'est le message lancé aujourd'hui par le président du groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité. Réunion toute cette semaine à Paris, jusqu'à 1 million d'espèces pourraient disparaître dans les prochaines décennies. Lever le pied pour respirer mieux, c'est ce que demande la métropole lyonnaise aux automobilistes. Depuis aujourd'hui, après Lille, après Paris, face au pic de pollution, la vitesse est donc réduite de 90 à 70 km/h maximum sur le périphérique. Jean-Luc Boujon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Lyon. On peut dire que cette mesure est loin d'être populaire.
Oui, vous avez raison. C'est pour cela que la métropole, qui est décisionnaire en la matière, consciente de marcher sur des œufs, a repoussé plusieurs fois l'échéance. Ce devait être en début d'année, puis en mars. Finalement, ça a démarré seulement ce matin. Le sujet est donc très sensible et on comprend mieux pourquoi. Quand on écoute les automobilistes qui empruntent le périph' chaque jour, pas un seul ce matin pour approuver la mesure.
Sur une 4 voies comme ça, c'est vraiment ridicule.
Piège à con, s'ils sortent faire du fric.
Est-ce que les radars vont flasher plus ?
Ah bah bien sûr. Ça va être 2 fois plus dangereux qu'à 90. Pour moi, c'est de la fumisterie.
Passer par 80, ça aurait été un peu plus cohérent, j'allais dire, que de passer directement à 70, de 90 à 70, non.
On se traîne, franchement, à 70, c'est vraiment lent, on va pas le respecter longtemps.
Voilà, vous l'entendez, hein, la mesure est très impopulaire. Pourtant, les causes qui ont présidé à cette décision peuvent aisément se comprendre. Écoutez Jean-Luc Dapassano, il est l'élu chargé des routes à la métropole de Lyon.
Il s'agit de diminuer les oxydes d'azote, les particules fines, de diminuer le bruit, et puis troisièmement, la réduction de l'accidentologie. En matière de pollution, toutes les études montrent qu'un moteur produit le moins de pollution aux alentours de 70 km/h.
Voilà, autant d'arguments qui n'ont pas convaincu du tout les Gilets jaunes lyonnais qui ont mené samedi dernier une opération escargot sur le périph pour dire leur mécontentement. Alors pour l'instant, c'est une expérimentation jusqu'à la fin de l'année. À ce moment-là, on évaluera l'impact de cette mesure en matière d'environnement et d'accidentologie et on décidera si on maintient oui ou non les 70 ou si on revient aux 90.
Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h10 et on va maintenant partir aux États-Unis où une prise de parole était très attendue aujourd'hui pour la première fois depuis les deux crashs de Boeing 737 MAX et pour la première fois depuis que ces appareils sont cloués au sol. Le patron de Boeing s'est exprimé aujourd'hui. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Un patron droit dans ses bottes.
Oui, Dennis Muilenburg a tenu la même ligne de défense à la fois face aux actionnaires puis ensuite face aux journalistes. La sécurité est la préoccupation numéro une de Boeing qui travaille sans relâche pour que les 737 MAX soient à nouveau autorisés à voler. C'est une succession d'incidents qui a causé les crashs, pas juste un seul élément de l'avion en particulier, a dit le PDG de Boeing aux journalistes, mais il n'a pas fait traîner sa conférence de presse. Un peu avant ça, il n'avait finalement pas été sanctionné par le vote des actionnaires. À l'extérieur de leur assemblée générale à Chicago, la famille et les amis d'une des victimes américaines du crash d'Ethiopian Airlines était rassemblée au même moment pour dénoncer l'attitude de Boeing parce que hier, on a appris que les 737 MAX avaient failli être cloués au sol l'an dernier, avant donc les crashs, et ce parce que les inspecteurs fédéraux avaient découvert que Boeing avait désactivé un signal d'alerte dans ses avions vendus à une compagnie aérienne américaine, un signal censé avertir d'un dysfonctionnement dans le fameux logiciel anti-décrochage, celui qui concentre les critiques depuis les crashs, et la version modifiée de ce logiciel sur laquelle travaille Boeing va donc être testée d'ici la semaine prochaine, c'est Boeing qui vient de l'annoncer.
Les précisions de Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Les négociations en Espagne après la victoire des socialistes aux législatives. Le Premier ministre Pedro Sanchez, arrivé en tête, ne pourra pas gouverner tout seul. Il cherche donc des alliances avec la gauche radicale et peut-être aussi avec les indépendantistes catalans. C'est un appel urgent, celui lancé par l'établissement français du sang, un SOS, car ce mois de mai à trous fait le bonheur des uns, mais aussi le malheur des autres. En mai, en effet, traditionnellement, on donne moins son sang. François Charpentier est le porte-parole de l'établissement français du sang.
Quand il y a des jours fériés et quand il y a une grande suite de jours fériés, c'est une véritable ponction dans nos stocks qui est réalisée parce que les jours fériés et la collecte de sang ne font pas bon ménage. Un jour férié, clairement, c'est quasiment un trou de 10 000 produits dans notre stock. Et le mois de mai va être difficile à passer. Aidez-nous, inscrivez un don du sang dans le courant du mois de mai, dans votre parcours personnel. C'est facile, c'est gratifiant, c'est sans danger, c'est généreux, c'est voilà, un don, une heure, trois vies sauvées.
Voilà le porte-parole de l'établissement français du sang, joint pour Europe 1 par Marina Guibert. Entraînement à huis clos ce lundi pour les Parisiens. Le PSG qui se calfeutre après la défaite en finale de la Coupe de France samedi contre Rennes. Seul l'entraîneur Thomas Tuchel s'est exprimé cet après-midi. Et il est notamment revenu sur le geste de Neymar qui s'en est pris à un supporter breton qui le narguait un peu samedi soir. Inacceptable pour le coach.
Moi, je n'aime pas du tout, c'est pas possible de faire ça, parce que c'est simplement pas possible. Je n'ai pas vu, mais tout le monde m'a dit. Et j'étais là aussi, et c'est pas facile de monter après en défaite, c'est super difficile pour moi, pour tout le monde, mais on doit accepter. Si on gagne, c'est plus facile, si on perd, on doit accepter, on doit monter respect, c'est toujours nécessaire. C'est pas possible que nous sommes dans un challenge avec un spectateur.
Thomas Tuchel avec Julien Froment, les Parisiens qui joueront demain un match en retard de la 34e journée face à Montpellier. Ce soir, il y a un match de Ligue 2 important, Lorient-Auxerre. Et pour l'instant, les deux équipes sont à égalité, 2 buts partout au bout de 73 minutes de jeu. Match important pour les Bretons qui jouent une place pour les barrages d'accession pour la Ligue 1. Et puis en rugby, Laurent Labitte rejoindra l'encadrement du 15 de France en vue de la Coupe du Monde. Il quittera donc le Racing 92 et deviendra l'adjoint du futur sélectionneur Fabien Galthié. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous Valérie Darmon. Et demain, Valérie, sera la plus belle journée de la semaine.
Absolument Isabelle, en même temps que celle de mercredi d'ailleurs. Donc c'est cadeau, sauf des Hauts-de-France à la Bourgogne-Franche-Comté où le temps sera souvent nuageux demain, surtout en matinée, mais le soleil fera quelques trouées l'après-midi. De la Bretagne à la Normandie, le temps restera sec et ensoleillé avec des températures de saison. Des Pays de la Loire à l'Occitanie, en passant par la Nouvelle-Aquitaine, le ciel sera juste voilé par des nuages d'altitude sans gravité. Et puis Auvergne, Rhône-Alpes, Corse, en passant par PACA, quelques cumulus de beau temps pourraient bourgeonner sous des températures qui sont légèrement en hausse l'après-midi. Les maximales oscilleront entre 14 à Boulogne-sur-Mer et 23 à Perpignan et Montpellier, 17 annoncés par Météo France à Lille et 19 à Lyon et à Paris.
La météo signée Valérie Darmon.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le directeur général du Futuroscope, Rodolphe Boin. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h15, comme tous les soirs sur Europe 1, on s'intéresse à la bourse.
L'invité écho avec laposte.fr/pro, gagnez du temps en imprimant vos timbres depuis votre bureau.
La bourse, c'est avec vous Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Belle.
L'invité éco, ce sera un petit peu plus tard avec Emmanuel Duteil. On parle de la bourse tout de suite. Donc Wall Street qui commence cette semaine en légère hausse.
Oui, une hausse vraiment très symbolique pour le Dow Jones. Plus 0,04%, 26 554 points. Petite hausse aussi pour le Nasdaq, mais qui lui permet de battre un nouveau record historique. Il gagne 0,19%, 8 162 points. Au programme cette semaine à Wall Street, on a deux jours de réunion pour la Fed, la banque centrale américaine. Ce sera demain et mercredi. Et ce soir, on a des poids lourds qui montent légèrement, plus 0,1% pour Google et Apple. Les deux géants technologiques devaient dévoiler leurs résultats trimestriels après la clôture ce soir, donc en ce moment. Autre valeur en vue, Walt Disney, qui a franchi un record en début de séance avant de revenir à l'équilibre. La valeur est soutenue par le succès du dernier épisode de la saga Avengers. Le film qui met en scène des héros de comics Marvel a rapporté 1,2 milliard de dollars en seulement 4 jours aux États-Unis et au Canada.
Et qui cartonne, paraît-il, aussi en France. Hein.
Oui, ouais. Ça marche très très bien. Donc il s'agit d'un record au box-office et évidemment d'une bonne nouvelle pour Disney. Le pétrole se stabilise, le WTI gagne 0,32%, 63,50 le baril et l'euro retrouve un peu de vigueur, plus 0,3%, 1,1179.
Et le marché parisien, Claire, lui, démarre la semaine sur une petite hausse.
Oui, une petite hausse également. Le CAC 40 a encore progressé de 0,21%. On est à 5581 points. Une ambiance très calme pour débuter une semaine qui sera coupée par le 1er mai. Belle séance pour les valeurs bancaires avec des gains de plus de 2% pour Crédit Agricole et Société Générale. Le secteur est dopé par la progression des banques italiennes. L'agence de notation Standard & Poor's a maintenu sa note BBB sur l'Italie. Et puis Valeo gagne 0,7% après la montée de BPI France, la banque publique d'investissement à plus de 5% de son capital. Ça permet à l'État français de devenir le premier actionnaire de l'équipementier automobile.
Et puis Sanofi, Claire, affiche une des meilleures performances du jour.
Un gain de 1,7% pour Sanofi avec de bonnes nouvelles pour deux de ses projets de médicaments. En revanche, Arcos chute de 12%. Grosse sanction pour le fabricant de smartphones et de tablettes après des résultats 2018 en forte baisse. Ailleurs, en Europe, les indices sont terminés en légère hausse. Plus 0,1% pour le DAX à Francfort. Londres, plus 0,2%. Plus 0,2% aussi pour Milan. Plus 0,1% pour Madrid qui s'est repris en fin de séance après avoir perdu du terrain dans la foulée des législatives en Espagne. Et puis le CAC 40 gagne 0,2%, 5581 points.
Merci pour ce tour d'horizon, Claire Lemaître de boursier.com. Et à 22h18, c'est l'heure de l'invité éco.
L'invité éco avec laposte.fr/pro, gagnez du temps en imprimant vos timbres depuis votre bureau.
Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir le directeur général du Futuroscope.
Bonsoir Rodolphe Boin.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général du Futuroscope. Est-ce que vous êtes un homme heureux? Il y a du monde là avec les ponts du mois de mai qui arrivent?
Ça a très bien fonctionné. On a commencé le bloc des vacances d'avril qui est en général un moment un peu particulier parce qu'il scelle en général les résultats de l'année. Ça a très très bien fonctionné la première semaine. Encore mieux la semaine dernière où on a fait à peu près 12 000 visites tous les jours, donc on est parti pour faire un bloc des 4 semaines sur 300 000 visites, qui est un très bon score.
Alors j'ai regardé sur les dernières années, j'ai dû faire 2-3 interviews du Futuroscope et à chaque fois, le patron du moment est venu me dire c'est une saison record. Est-ce que cette année encore, on va battre des records du côté du Futuroscope ?
Eh bien, je vais vous faire mentir, ce n'est pas l'objectif. L'objectif est de stabiliser la fréquentation cette année par rapport à l'année dernière qui était déjà un bon cru. Puisqu'il s'agit de faire les choses dans l'ordre, il faut stabiliser la fréquentation là où elle est, aux alentours de 2 millions de visites, avec 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, avant de franchir un palier significatif en termes de fréquentation. Mais il faut faire les choses dans l'ordre et donc il faut construire les attractions avant d'aller conquérir des visiteurs en nombre plus important, puisqu'on est vraiment très attaché à la satisfaction.
Oui, parce que les trois clés pour gagner plus de monde, pour faire venir plus de touristes, c'est innover, donc ça veut dire de nouvelles attractions, c'est avoir un très bel été, et puis avoir la chance de bénéficier, semble-t-il, de ce que font de plus en plus les Français, partir de moins en moins loin et de moins en moins longtemps, mais de plus en plus souvent pour des courts séjours. C'est ça les trois clés pour réussir ?
Oui, c'est exactement ça. L'innovation, elle est partout, un peu plus fortement chez nous, parce qu'on s'appelle Futuroscope, on a le futur dans notre mot, c'est un joli héritage, c'est pas toujours simple, mais c'est très excitant. Donc l'innovation, ça fera toujours partie de nos gènes. Faire venir de plus loin, faire rester plus longtemps, oui, c'est vraiment un axe stratégique très fort qu'on va développer dans les 5 et les 10 ans qui viennent, puisqu'on s'est projeté à 10 ans, avec effectivement pour objectif de devenir une vraie destination de séjour.
Alors pour qu'ils viennent plus longtemps, il faut qu'ils aient plus de choses à faire, ça veut donc dire plus d'attractions. Comment on choisit les attractions qui seront celles qui représenteront demain le futur du côté du Futuroscope ?
Il n'y a pas de recette universelle. On a plusieurs process différents qui ne s'opposent pas forcément d'ailleurs et qui sont complémentaires. D'abord, on fait le tour du monde et on va visiter ce qui se fait de mieux dans les parcs d'attractions à Orlando, à Las Vegas. Je reviens de Dubaï, j'ai fait un petit tour à Las Vegas. Vous voyez que c'est un métier assez compliqué quand même que je fais. Et puis on va voir également des showrooms à Tokyo, un petit peu ailleurs. Et on va surtout voir des tendances de fond. Encore une fois, on s'appelle Futuroscope, donc il faut qu'on soit à la pointe et qu'on innove en technologie, mais pas seulement. Donc ça fait partie des salons qui nous permettent de récupérer des ingrédients, de la matière première. Après, on se considère comme étant des assembleurs. Donc il faut assembler à la fois de la technologie, de l'innovation, mais également des histoires immersives, et il faut que le tout prenne pour faire des jolies attractions.
Mais on va aller vers quoi ? Parce que là, on a bien compris, on fait une petite pause, on fait en sorte que tout le monde soit content, mais on va passer un palier, comme vous nous avez dit, Rodolphe Boin. Donc pour ça, plus d'attractions. Vous n'avez pas vraiment répondu, malgré tout, à quoi ça va ressembler tout ça. Il y en aura combien, etc. etc.
Alors, il n'y a pas vraiment de pause. On a fait deux grosses nouveautés cette année, notamment la refonte complète du monde des enfants qui s'appelle dorénavant Futuropolis, qui est un joli investissement. Puis on avait fait aussi une inauguration en février avec un joli film. On a renouvelé un quart du produit ces trois dernières années, mais vous avez raison de dire qu'on va accélérer nos investissements dans les années qui viennent en créant des grosses attractions à fort débit horaire et avec des niveaux de qualité qui nous semblent être supérieurs à ce que nous avons aujourd'hui.
Alors, à fort débit horaire, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous pouvez mettre beaucoup de gens au même moment dans la même attraction ?
Oui, il faut faire un peu de mathématiques. Donc, c'est assez simple. C'est plus simple de calculer le nombre de sièges horaires qu'il nous faut que de trouver de jolies histoires. Mais si on a pour ambition de progresser en termes de fréquentation, il faut des capacités un petit peu plus fortes et il nous faut des attractions qui sont capables de faire passer 1000 visiteurs à l'heure.
Qui sont les gens justement qui viennent au Futuroscope ? On disait des gens qui vont de moins en moins longtemps en vacances loin et qui font de plus en plus de courts séjours, mais qui est un peu le client type, je vais dire, du Futuroscope, hein ?
Alors au Futuroscope, c'est plutôt les familles françaises, 2/3 de nos visiteurs, mais on ne sacrifie aucun marché. On essaie d'avoir une diversité très forte de nos attractions pour qu'il y en ait pour tous les goûts, pour toutes les bourses aussi. Donc on est vraiment très attaché à cette diversité-là, à la fois d'expérience et dans les cibles, dans nos différentes stratégies. C'est plutôt une clientèle française pour l'instant. On réfléchira dans les années à venir à voir s'il faut progresser sur la clientèle internationale. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'axe stratégique retenu. Après, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on a deux marchés particuliers, plutôt un marché loisirs et plutôt un marché tourisme. 1/3 de nos visiteurs viennent nous consommer à leur journée, font en gros un aller-retour dans la journée en voiture. Et puis 2/3 viennent nous consommer en séjour, 2 jours une nuit, et j'espère demain sur des séjours qui pourraient durer 3 jours.
Le plus dur, c'est de faire revenir les touristes. Alors ça, on l'a vu avec de nouvelles attractions, c'est souvent l'idée pour les faire revenir. Mais malgré tout, il faut qu'il y en ait beaucoup de nouvelles attractions pour donner envie aux gens de revenir. C'est ça le plus compliqué.
Oui, il faut continuellement se renouveler, puisque effectivement, les gens qui nous ont déjà visités reviennent plutôt quand nous avons des nouveautés. Donc c'est pour ça qu'on est très actifs dans le renouvellement. Mais encore une fois, là, on ne choisit pas à la fois d'aller vers la revisite plutôt que d'acquérir du primo-visiteur, donc des visiteurs qui n'ont pas encore visité le Futuroscope. 1 Français sur 2 aujourd'ui a consommé le Futuroscope,
ah oui.
Donc il reste encore
1 Français sur 2. Donc là, en moyenne, on va dire que nos auditeurs sont représentatifs, 1 sur 2 est déjà allé au Futuroscope.
Normalement, ça doit marcher, oui.
Normalement, ça doit marcher. Alors l'élément le plus important et le seul que vous ne pouvez pas maîtriser, c'est la météo. Alors, même si je pense que vous essayez peut-être de vous prémunir parce que vous avez, vous, de la chance d'avoir finalement pas énormément en extérieur, c'est la chose que vous regardez le plus. Chaque matin, la première chose que vous faites en vous levant, c'est regarder votre téléphone portable et les prévisions météo ?
Absolument pas, parce qu'on ne le maîtrise pas. Donc, nous, on est attachés à regarder ce qu'il faut faire en termes de stratégie et comment il faut opérer le parc d'une journée à l'autre. On a des prévisions de fréquentation qui sont très fiables parce que nos visiteurs séjournent, en fait. Donc on a des réservations hôtelières qui font que, par des algorithmes, on arrive à prévoir de manière assez précise nos niveaux de fréquentation. Non, la fréquentation, on fait avec. Et puis, vous l'avez cité tout à l'heure, on a beaucoup d'attractions qui sont indoor. Donc, on est moins météo-dépendant que d'autres.
Malgré tout, je lisais qu'en fonction du temps, en fonction du nombre de réservations que vous avez, vous adaptez les horaires d'ouverture du parc. Vous êtes extrêmement flexible, notamment en plein été. Vous pouvez vous dire, on peut rajouter un peu de personnes à venir parce qu'on va pouvoir ouvrir une heure ou une heure et demie de plus. Et ça peut se décider quasiment 48 heures avant.
Exactement. Ça se décide tous les lundis avec un comité de fréquentation où on redimensionne le parc tous les jours. Donc la consommation du parc n'est pas la même le mardi ou le mercredi. Et en cours de journée, il est également possible de redéclencher les shows ou d'allonger l'amplitude d'ouverture du parc qui est déjà très forte puisque au mois d'août, en général, on ouvre à 8h30 et on finit à 23h30.
Si vous êtes sur un palier cette année, est-ce que c'est parce qu'il y a moins de ponts? Parce que là, le 1er, le 8 mai, tous ceux qui travaillent s'en sont bien rendus compte que cette année, c'est un peu moins rigolo. Ça joue quand même pour vous, parce que notamment sur le fait que vous soyez sur des destinations courtes, c'est moins intéressant que l'année dernière où tout ça tombait un mardi.
Oui, ça joue pour le 1er mai, pour le 8 mai, mais à l'échelle d'une année, on a toujours des moments qui sont un peu moins propices, d'autres qui sont un peu plus bénéfiques. Donc au final, moi je pense que ça se lisse. Les effets météo, les effets ponts, ça nous permet de raconter de jolies histoires quand il faut expliquer une petite baisse ou une hausse, mais au final, ça joue pas énormément.
Eh bien, on va vous souhaiter surtout une excellente saison. Un grand merci Rodolphe Boin, le directeur général du Futuroscope qui était donc notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20.
Et merci à vous Emmanuel Duteil. C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro. Gagnez du temps en imprimant vos timbres depuis votre bureau, selon vos besoins, à n'importe quelle heure de la journée.
Et dans un instant sur Europe 1, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les infos que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? À tout de suite. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Calendrier, financement, les défis du plan Macron, titre Le Figaro. Faire vite et bien, c'est le mot d'ordre lancé par Édouard Philippe aujourd'hui en ouverture du séminaire qui réunissait à Matignon ministres et responsables de la majorité après les annonces d'Emmanuel Macron. Le gouvernement doit décliner la panoplie de mesures de sortie du grand débat initié par le chef de l'État. À lire également sur ce sujet dans le journal La Montagne, l'édito de Florence Chédotal intitulé « Service après-vente ». On ne peut pas dire que le patron lui ait fait un cadeau en lui refilant le bébé, écrit-elle à propos d'Édouard Philippe, chargé d'établir le process permettant de traduire le verbe présidentiel imprécis en acte concret au quotidien. Lui revient aussi la lourde tâche de redémarrer la machine grippée depuis des mois. En cas d'échec, écrit la journaliste, il est dérisoire de penser qu'Édouard Philippe pourrait renouer avec la fonction utile de fusible, car aussi sûr qu'Emmanuel Macron est devenu la cause et la finalité de tout dans beaucoup d'esprits, ce sera lui qui réglera la facture. Quelque part, le président a remis sa vie politique entre les mains de son Premier ministre. 1er mai, trois couleurs pour une colère, titre le journal L'Opinion. Rouge, jaune, noir, les cortèges syndicaux de la fête du travail seront cette année rejoints par des gilets jaunes auxquels chercheront à se mêler des black blocs accroissant le risque de violence. Un cocktail qui pourrait être redoutable. Le chômage, oublié du grand débat, écrit pour sa part le journal La Croix en une. La question de l'emploi n'a guère été évoquée au cours de ces mois de crise. Dans La Croix, syndicats, justement, économistes également, patrons et politiques disent comment relancer le sujet. Et puis gauche espagnole, la remontada, titre Libération, moins d'un an après son arrivée au pouvoir. Le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a remporté son pari hier en arrivant en tête des législatives. Reste maintenant pour lui à former une coalition. Et voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sabrina Philips cette semaine pour la Libre Antenne. Bonsoir Sabrina.
Bonsoir Isabelle.
Je vous retrouve à 23h pour un nouveau point sur l'info.
À tout à l'heure.